Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. 50 hectares de végétation sont partis en fumée dans le sud de Lyon. Le département du Rhône et la métropole passent en alerte sécheresse. La députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Guérin souhaite instaurer une trêve estivale des expulsions locatives. Attention si vous devez prendre la route, manifestation des ambulanciers aujourd'hui. Et puis des difficultés également si vous devez voyager en Rhône Express. Des travaux au pied de la montée de Choulan, on vous explique pourquoi. La marche des fiertés maintenue ce week-end, malgré la chaleur. Et puis nous parlerons de la rénovation du crématorium de Lyon, situé au nouveau cimetière de la Guillotière. Il a retrouvé toute sa splendeur. Reportage complet dans cette édition.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un impressionnant panache de fumée a noirci le ciel du sud-est lyonnais hier après-midi. Un incendie s'est déclaré en effet près de la rocade Est, brûlant 50 hectares de végétation. Le feu s'est déclaré vers 14h sur un champ de chaume situé entre l'aérodrome de Corba et la commune de Mions. Alimenté par une forte sécheresse et un vent tournant, le sinistre a rapidement parcouru 50 hectares. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais l'incendie a entraîné le confinement préventif d'une trentaine d'enfants d'un centre aéré. En tout cas, face à ce risque incendie devenu bien réel avec les fortes chaleurs, la municipalité de Mions a d'ores et déjà pris la décision d'annuler son traditionnel feu d'artifice du 13 juillet. Le bal des pompiers, lui, est maintenu. Face à cette troisième canicule consécutive, le département du Rhône et la métropole passent en alerte sécheresse. Les cours d'eau se tarissent et la préfecture serre la vis en imposant des restrictions immédiates. Concrètement, il est désormais interdit de prélever de l'eau dans les nappes et dans les rivières pour un usage domestique. Vous ne pouvez plus laver votre voiture à la maison ni remplir votre piscine. Pour l'arrosage des jardins, des potagers et des espaces sportifs, c'est interdit en journée entre 10h et 18h. Attention, la police de l'environnement veille au grain. Des contrôles ont débuté et l'amende peut grimper jusqu'à 1 500 € pour les particuliers. Météo France ne prévoyant aucune amélioration à court terme, la préfecture prévient que des mesures encore plus strictes pourraient être prises. Protéger les locataires de la chaleur extrême, comment les protège du gel hivernal? C'est le sens de la proposition de loi portée par la députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Guérin qui souhaite instaurer une trêve estivale des expulsions locatives, interdire l'exécution des expulsions locatives du 15 juin au 15 septembre. C'est l'objectif de cette proposition de loi calquée sur la trêve hivernale qui s'activerait aussi en cas de vigilance canicule orange ou rouge. Pour la députée écologiste, il s'agit d'une urgence humanitaire face au dérèglement climatique. Si l'initiative fait déjà réagir les représentants des propriétaires, elle résonne fortement à Lyon où 280 personnes, dont 80 enfants, sont actuellement sous la menace d'une expulsion place de Milan. Le tribunal doit trancher le 21 août. Attention si vous prenez la route à Lyon ce matin, la circulation s'annonce très difficile. Après Paris, Montpellier ou encore Marseille, la colère des ambulanciers privés s'installe dans la métropole. Dès 8h, trois cortèges escortés par la police s'élanceront de Lima, Solèze et Bénaud pour ensuite converger vers le pont Lafayette et se diriger vers l'agence régionale de santé rue Garibaldi. La profession alerte sur sa survie. Selon les syndicats, plus d'un quart des 5300 entreprises françaises de transport sanitaire pourraient bien faire faillite d'ici la fin de l'année. Une menace direct pour le suivi des patients âgés ou sous traitement lourd en zone rurale. Face au silence du gouvernement depuis 6 mois, les ambulanciers réclament des arbitrages d'urgence. Attention, si vous devez prendre aussi l'avion à Lyon, voyager en Rhône Express s'annonce très compliqué ces prochains jours. Premier point noir aujourd'hui, ce vendredi, en raison d'une grève lancée par la CGT pour dénoncer les conditions de travail. Le trafic est fortement réduit, les navettes circulent uniquement entre Vaux-en-Velin-la-Soie et l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec un départ toutes les 30 minutes au lieu de 15. Anticipez donc largement vos trajets. Et ce n'est qu'un début. À partir du mercredi 15 juillet, donc mercredi prochain, jusqu'au 2 août, la ligne sera complètement à l'arrêt pour les travaux liés au futur tram T9. Des bus de substitution prendront le relais entre la Part-Dieu et l'aéroport, avec un passage toutes les 20 à 30 minutes. D'importants travaux d'urgence sont en cours dans le 5e arrondissement, en bas de la montée de Choulan. Un mur de soutènement menace de s'effondrer. Des fissures majeures menacent la stabilité d'un imposant mur de soutènement à hauteur du lycée Don Bosco. Pour éviter que le mur ne s'effondre, la métropole a déployé des ouvriers en urgence jusqu'à ce vendredi. Une structure en bois et des sacs de sable sont installés pour caler l'ouvrage, désormais sous surveillance permanente. À l'origine du problème, une fuite sur le réseau d'assainissement qui a fragilisé le sol. Une seconde phase de travaux aura lieu au mois d'août pour ancrer définitivement le mur avec des tiges métalliques. Pour l'instant, seule la voie de bus est condamnée. Malgré les fortes chaleurs, la marche des fiertés est maintenue à Lyon. Le centre LGBT de Lyon l'a confirmé. Le cortège partira samedi à 13h depuis la place Maréchal Lyautey, une édition qui marquera les 30 ans de la marche lyonnaise. La journée se poursuivra par un open air où Drag Show et DJ Set enflammeront la piste.
Lyon demain, découverte.
Construit en 1913, le crématorium de Lyon, situé au fond du nouveau cimetière de la Guillotière, a retrouvé toute sa splendeur. L'équipement, le deuxième à avoir été construit en France après Paris, n'avait jamais été restauré depuis un siècle. Bien que ne bénéficiant d'aucun classement, la ville de Lyon entendait préserver ce joyau, tant par son aspect patrimonial que pour sa dimension sociale. Grégory Doucet, le maire de Lyon.
Ça a été à Lyon un long chantier, 15 mois de travaux, et de travaux particulièrement délicats, puisque c'est un objet patrimonial, ce crématorium. Il a été construit et inauguré en 1913, et donc il a plus d'un siècle, avec des techniques de construction qui le rendaient à la fois fragile aujourd'hui, mais qui exigeaient de mobiliser tout un ensemble de savoir-faire, d'artisans de précision pour pouvoir le remettre en état.
La crémation représente quoi aujourd'hui à Lyon ?
Aujourd'hui, c'est la moitié des familles qui souhaitent passer par ce rite funéraire. Donc c'est dire si c'est devenu essentiel pour la ville de Lyon, eh bien de disposer d'un lieu qui puisse accueillir les familles, leur offrir un service de qualité. Enfin, d'où l'intérêt de ces travaux de rénovation. Mais on n'est qu'à la moitié du chemin, puisqu'il reste aussi à rénover l'intérieur de la salle. Et il fallait d'abord commencer par l'enveloppe et notamment par la coupole. Et donc des travaux vont suivre pour reprendre l'intérieur du crématorium, de manière à ce que la salle dans laquelle se déroulent les cérémonies puisse aussi être à la hauteur, on va dire, des exigences de dignité que nous devons proposer aux familles. Quand on vient ici, c'est qu'on traverse un deuil, et donc on se doit, nous, en tant que service public funéraire, d'apporter eh bien, les conditions de la dignité pour les familles qui vont venir ici endeuillées. Donc voilà, donc c'était important pour nous d'investir ici.
Il est suffisant cet équipement ? On parlait tout à l'heure du succès, entre guillemets, des crémations pour faire face au nombre ?
Oui, aujourd'hui, on fait face, bien sûr, à la demande. Et vous savez, la politique funéraire de la ville de Lyon, elle ne s'arrête pas à la question de la crémation. Nous avons mis en place une politique funéraire depuis 2023 qui vise aussi à faciliter l'inhumation, notamment pour les ménages modestes, faire en sorte que les ménages ne soient pas en proie aux vicissitudes du marché et qu'elles ne se retrouvent pas exploitées par certaines entreprises qui voudraient, sous le prétexte qu'elles sont fragilisées dans un moment de deuil, eh bien, les exploiter, tout simplement. Et donc, il était important pour nous de pouvoir offrir un service public abordable, accessible à toutes les familles, y compris les plus modestes.
Les nouvelles pratiques, ça pourrait intéresser la ville de Lyon d'expérimenter par exemple l'humiliation ?
Tout à fait, c'est une pratique, un rituel que nous sommes prêts à expérimenter. Aujourd'hui, le cadre législatif ne le permet pas, mais ça pourrait tout à fait être un champ d'opportunité pour nous. Sachez tout de même que nous avons, en plus de la dimension sociale, intégrer dans notre plan funéraire une dimension écologique, puisqu'aujourd'hui nous faisons une proposition aux familles de pouvoir utiliser des cercueils en bois non traité. Nous avons engagé dans nos cimetières un plan de végétalisation, faire en sorte que les cimetières puissent être aussi des lieux plus accueillants, plus naturels. C'est une demande des Lyonnaises et des Lyonnais, donc il nous faut bien évidemment la satisfaire.
Parmi les parties à rénover, le dôme, les éléments de toiture, les charpentes, les façades, un travail minutieux pour un chantier qui a duré un an et demi, un travail long et technique que nous explique Bruno Morel, architecte du patrimoine.
Alors c'est le deuxième crématorium créé en France, le premier étant à Paris, au Père Lachaise. Celui-là donc est créé en 1908, enfin est pensé en 1908, et réalisé en 1911 et fini en 1913. Donc une conception assez rapide, hein, quelques 5 ans. Créé ex nihilo, bien sûr, il n'y avait rien ici au bout du cimetière, donc nouveau, qui date quand même de 1859, mais nouveau de la Guillotière, l'ancien étant 1822. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel la monumentalité, hein, c'est un bâtiment qui en impose dans son format, dans son registre architectural, dans la beauté de ses espaces intérieurs, pour une cérémonie donc, de crémation, qui est à l'époque une nouveauté.
C'était quoi la difficulté alors pour rénover ce bâtiment ?
La difficulté tenait surtout dans le fait qu'il n'avait jamais été rénové, c'est-à-dire que depuis sa construction, aucun entretien n'avait été fait d'envergure sur les maçonneries, par exemple des façades, et en couverture aussi. Donc il accusait le poids des années, et au niveau de couverture, les ardoises étaient totalement abîmées, parties, donc des fuites en pagaille. Et au niveau des façades, le calcaire, la pierre calcaire qui avait été utilisée, la pierre de Saint-Institut, n'ayant jamais été ravalée, était dans un état de crasse et de desquamation très importante.
Alors ce qui fait aussi la particularité, c'est ce dôme en ardoise qui rappelle l'Hôtel-Dieu par exemple, hein, on peut dire ça comme ça. C'est quoi la particularité de ces ardoises ?
La particularité déjà du dôme, c'est qu'il surplombe une coupole. Qu'entre les deux, géométriquement, ce n'est pas la même chose. La coupole, elle est inférieure, on la voit depuis la salle du bas. Elle est hémisphérique, donc une calotte de sphère, une demi-sphère. Alors que le dôme, lui, il est elliptique, donc il la surplombe au maximum de 7 mètres. Donc un grand volume, si vous voulez, vide entre les deux. Non régulier, forcément, puisqu'à la base, il se touche, mais au sommet, il y a 7 mètres. Et donc, c'est ça la grosse particularité d'un dôme tel que celui-ci, qui est effectivement copié sur, pas vraiment celui de l'Hôtel Dieu, mais plutôt sur les Invalides, enfin les dômes hémisphériques comme ça, assez classiques au XVIIIe siècle. Là, on est au tout début du XIXe siècle, donc on reprend un modèle et une image du passé, que l'on réalise par contre en matériaux, on va dire, contemporains pour l'époque. On emploie de l'acier, de la brique plâtrière, du bois, mais pas d'une manière en charpenterie traditionnelle. On est un peu dans l'avant-garde. Donc un mélange des matériaux qui est très novateur pour le début du XXe siècle.
Avec des ardoises qui sont fixées de façon un peu particulière, vous expliquiez tout à l'heure.
Alors oui, les ardoises sur ce dôme sont fixées avec des crochets. Donc c'est une technique qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui est évidemment bien employée au XXe, qui a la particularité de permettre le démontage des ardoises cassées ou absentes. Hein, si elles sont parties, on peut en remplacer une. Alors que dans la technique plus ancienne, donc jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe, c'était la technique dite du clou. Donc on prenait une ardoise, on lui faisait deux trous dans les angles, on la clouait sur le support en bois. Le problème est, comme vous savez que toutes les ardoises se chevauchent les unes les autres, quand une ardoise est cassée, le clou est protégé par l'ardoise du dessus, et donc on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas enlever l'ardoise que l'on souhaite. La technique du crochet, donc, permet cette modularité et cette souplesse de pouvoir les mettre et les enlever. Historiquement, ils étaient en acier, en ferraille. Donc nous, quand on a retrouvé le dôme, ils étaient totalement rouillés, voire absents pour certains crochets. Ils avaient rompu. Nous, on les a mis en inox peint en noir pour qu'on ne, on les voit pas, mais qu'ils demeurent utiles.
Comment on arrive à concilier la vocation historique d'un bâtiment comme celui-ci avec aujourd'hui son exploitation contemporaine ?
C'est tout notre art de l'architecture et de l'architecte du patrimoine qui est justement de mettre des méthodes modernes au service d'un respect du patrimoine. Donc la technique des ardoises, on la connaît, on connaît ses défauts. Donc aujourd'hui, on essaie de corriger ses défauts sans que ça se voit. Par exemple, les caniveaux qui étaient en acier zingué, évidemment, rouillés, et on fait des... Nous, on l'a remplacé par de l'inox. Donc voilà, on utilise des techniques modernes, quasi invisibles, pour améliorer et faire durer le patrimoine.
Là, il est assuré de durer combien de temps ce bâtiment ?
Mon co-traitant qui part à la retraite est sur 100 ans mais c'est à peu près ça, des ardoises neuves, c'est au-delà de 70 ans sans entretien.
Une seconde phase de travaux est d'ores et déjà programmée pour restaurer la salle de cérémonie, la salle Édouard Herriot. Parmi les principales améliorations à apporter, rénover l'intérieur de la coupole, améliorer l'acoustique, mais aussi transformer les assises et le catafalque, dont la partie haute devrait être supprimée pour améliorer la visibilité de cette salle en rond où le public est disposé autour du cercueil. La coupole pourrait servir pour des projections d'images choisies par la famille. Bref, on ne s'interdit pas d'innover. En rugby, le top 14, la Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier de la saison régulière. Les supporters lyonnais peuvent d'ores et déjà cocher quelques dates. Le Loup Rugby entamera sa campagne 2026-2027 par un choc régional, un derby très attendu, en accueillant l'ASM Clermont à Gerland. Une entame idéale à domicile avant de voir défiler les autres cadors du championnat durant l'automne. Les Lyonnais recevront ainsi le stade de Rochelet lors de la 6e journée début octobre, puis le stade toulousain pour une affiche de gala fin novembre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour la prochaine édition. Excellent week-end.